tous par ce passage et il faut qu'il soit le plus agréable possible. Aujourd'hui, notre invité également sur ce plateau, j'accueille tout de suite Jean-Marc Perrin, élu au département, justement pour les personnes, comment on peut dire, du bel âge, Jean-Marc, c'est ainsi qu'on peut les nommer ?
Oui, du bel âge. Le bel âge commence à 60 ans.
Bon, commence à 60 ans, Jean-Marc, bonjour. Comment allez-vous ?
Bonjour, je vais très très bien, merci.
Alors, vous étiez il y a quelques instants sur le plateau de l'ES, justement, pour représenter le département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, la présidente, également, et vous mettiez en avant un sujet, on rappelle juste rapidement l'ES13, une association du département, donc qui permet à toutes les personnes de 55 ans et plus d'avoir... un panel de loisirs, d'activités qui sont mis à disposition avec voilà un beau catalogue, des prestations vraiment on peut dire presque plus qu'au de gamme, puisque vraiment
oui,
ce sont des voyages, des sorties, ce sont des excursions, ce sont des spectacles, ce sont mais vraiment une multitude de choses qui sont à des prix abordables et pour une adhésion, somme toute, si on peut dire, dérisoire. Et parfois même, il y a des aides qui sont faites pour les personnes qui n'auraient même pas la possibilité de payer cette adhésion, qui est de 20 € et ça permet d'avoir justement accès à tout cela. C'est quelque chose qui a été important, de, on va dire, pour le département de soutenir.
Oui, bien sûr, il est important d'avoir un partenaire de la qualité de la structure de l'ES13, Énergie Solidaire 13, qui est notre satellite en matière d'animation des personnes du bel âge. Alors, administrativement, et c'est un petit détail, mais administrativement, on fait partie du bel âge des seniors à partir de 60 ans. Et derrière, il y a une vraie politique publique qui s'enchaîne, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'isolement, la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement de la dépendance. Mais ce qui est important aussi, c'est que derrière l'animation du bel âge des seniors que nous avons confié à ce partenaire qui est le S13, il y a bien entendu tous les loisirs des seniors. Mais dans les loisirs des seniors, on y trouve quelques vertus où, en attendant, ce partenaire, le S13, nous aide vraiment à nous mobiliser sur des aspects qui nous préoccupent, tels que, je le redis, la lutte contre l'isolement.
On va en parler. Voilà. C'est vraiment de ça qu'on va parler. C'est sûr que c'est, on va dire, un élément fondamental, justement, le S13, pour lutter, parce qu'à travers toutes ces activités, même sportives, qu'il propose, cela en fait partie. Justement, pouvez-vous nous expliquer, Jean-Marc, vous qui êtes élu au département et qui représentez ici sur ce plateau donc toutes les personnes quand même qu'il faut dire, rappelez-moi le chiffre s'il vous plaît dans le département des Bouches-du-Rhône, des personnes qui ont plus de 60 ans.
Alors dans le département des Bouches-du-Rhône, nous sommes plus de 500 000 de personnes. Plus d'un demi-million de personnes, 556 000 et des poussières, si je peux le dire comme ça, de plus de 60 ans. Mais d'ici moins de 20 ans, en 2040, le chiffre va passer non pas de 550 000 à 810 000.
Oh, quasiment voilà. Le double.
Alors, la chance que nous avons, vous imaginez là derrière, et la question est pertinente sur le nombre, vous imaginez derrière toutes les prospectives, tout ce que les départements doivent faire,
en tout cas
le
nôtre,
mettre en place. Parce que forcément, plus on avance dans l'âge, plus on perd de l'autonomie,
bien sûr,
jusqu'à arriver à la dépendance. Donc vous imaginez tous les moyens qu'il faut mettre en place pour prévenir cette croissance. La chance que nous avons, si je peux le dire comme ça, c'est que on vit plutôt bien dans les Bouches-du-Rhône.
Dans notre département, avec le soleil, la mer.
On vit plutôt bien, le soleil. Alors, de côté, le soleil rend le département attractif, mais...
En même temps, la canicule.
Les régimes alimentaires, la qualité de vie, fait que
On vieillit bien.
Les gens rentrent plus tardivement en dépendance.
Alors justement, attendez, Jean-Marc, on va reprendre les choses justement, même si notre département, nos belles collines provençales, notre belle Méditerranée et tout ce qu'il y a à Marseille confirme ce que vous dites, mais en quoi consiste exactement déjà, il faut qu'on le définisse, la perte de l'autonomie chez les personnes âgées.
Alors, la perte d'autonomie chez les personnes âgées...
Parce qu'elle a multiples facettes, cette perte d'autonomie.
Oui, déjà, pour la mesurer, il y a un barème, si je peux le dire comme ça. Lorsqu'une personne commence à perdre son autonomie, il faut évaluer jusqu'où elle a perdu son autonomie. En se disant que le législateur a mis en place des barèmes qui vont de 6 à 1, plus le barème est bas, ça s'appelle un GIR, groupe iso-ressources.
Et je suis sûr que beaucoup de personnes le connaissent parce que toutes les personnes qui ont des aides à domicile
et oui,
en font
partie. Ça commence par ça.
Et oui.
La première des choses qu'il faut faire pour aider les gens qui perdent de l'autonomie, c'est d'évaluer
à quel degré
ils ont perdu. Alors là, ce sont des médecins, ce sont des infirmiers, et ensuite des assistantes sociales qui définissent, une fois qu'on a pu évaluer la perte d'autonomie par un barème, qui définissent ce qu'on appelle le plan d'aide. Et ça se calcule, ça s'élabore en fonction d'une visite au domicile pour essayer de connaître dans quel type de logement vit la personne qui a perdu son autonomie.
Oui, si c'est toujours adapté.
Est-ce que c'est toujours adapté? Est-ce que le plan d'aide sera plutôt focalisé sur des heures de ménage ou la cuisine ou un autre type d'accompagnement? Voilà, tout ça se fait en partenariat avec le département selon des critères bien précis et bien codifiés.
Bien précis et bien codifiés. D'ailleurs, Jean-Marc, vous qui vivez quasiment, j'ai envie de dire, quotidiennement, tout cela, parce qu'il y a le côté festif, comme là on était à l'ES13, on est en train de regarder des spectacles, c'est la joie, c'est tout cela, mais vous voyez aussi le mauvais côté des choses.
Oui.
Et quels sont les facteurs les plus courants, si vous arriveriez à les définir, qui contribuent à la perte de l'autonomie chez ces personnes âgées et est-ce qu'on peut les atténuer, est-ce qu'on peut les prévenir?
Alors oui, c'est assez complexe, la perte d'autonomie est assez complexe parce que nous sommes totalement inégaux devant la dégradation physique,
oui,
devant la maladie.
Ça déjà, c'est tout à chacun.
Moi, là où je voudrais rebondir, c'est sur l'autre partie de la question, est-ce qu'on peut anticiper ça, la prévenir? Oui, nous avons un vrai programme de prévention de la perte d'autonomie.
Mais les facteurs, Jean-Marc, avant qu'on fasse le programme, qu'on écoute tout de suite, mais c'est de dire, c'est quoi qui contribue la plupart du temps à cette perte d'autonomie? Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est la perte d'activité physique? Bon, après, vous avez dit, c'est sûr, tout à chacun, on a un vieillissement différent. C'est quoi la plupart du temps?
Un peu tout ça. Il est évident que des personnes qui ne sont pas proches des soins ou qui n'ont pas les moyens de se soigner, ou de faire
plus rapidement.
Un peu plus rapidement, ou toute une vie, des personnes qui ont eu une vie moins saine d'un point de vue alimentaire, tout ça. Mais je pense que des médecins en parleraient bien mieux
que nous,
que nous.
Alors vous, du coup, par rapport à tout ça, il y a ces fameux programmes qui pourraient être...
Alors il y a ces programmes dits de prévention de la perte d'autonomie en liaison avec l'État via la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, où nous avons des fonds publics pour financer des associations ou des structures type CCAS, des organismes type CCAS. Nous avons des fonds pour justement subventionner des actions de prévention de la perte d'autonomie. La perte d'autonomie est assez large. On peut avoir la plus classique, celle qui saute aux yeux, je dirais, c'est la perte d'autonomie physique. Et donc là, on aide, on soutient financièrement des associations, des organismes pour justement qu'ils fassent des actions physiques, de la gymnastique adaptée, voilà. Donc il y a toute une palette de dispositifs. Il y a aussi une perte d'autonomie mentale, intellectuelle.
Et oui, et c'est
mémorielle.
Ça, c'est celle-là.
Alors celle-ci, voilà.
On la néglige un peu plus ou on en parle
non,
un peu moins.
Non. En tout cas, celle-ci, on a aussi pour la prévenir, on a aussi ou pour la ralentir, des ateliers mémoire. Lorsque faire une partie de cartes, faire un simple loto, ça oblige les gens à rester concentrés.
Bien sûr.
Ça oblige les gens à à réfléchir. Et là, c'est de la prévention de la perte d'autonomie.
Même Jean-Marc, l'échange aussi. L'échange, tout simplement. C'est là où on rejoint l'isolement aussi.
On a financé, justement, des petits ateliers de structures radiophoniques amateurs qui allaient dans les EHPAD, dans les maisons de retraite médicalisées, interviewer des personnes qui étaient volontaires pour l'être, interviewer pour que l'on raconte leur vie. Pas d'une manière intime, mais qu'est-ce que nous avons vécu ? Est-ce que nous avons connu la guerre ? Est-ce que nous avons connu...
Juste de reparler de tout ça.
Histoire de les obliger à réfléchir. Et là, on est en train... Lorsqu'on fait ça, on est vraiment dans la lutte dans la prévention de la perte d'autonomie. Après, il y a toute une palette de dispositifs. Mais je voudrais revenir, Jennifer, si vous me permettez, sur un sujet. L'animation des seniors. Ça peut être... On l'a dit tout à l'heure... C'est de la joie, du festif, oui. Du ludique. Le SE13 est équipé, a dans son effectif des remarquables animateurs
oui.
qui sont comme des petites idoles vis-à-vis des personnes. Mais c'est très bien. Mais moi, ce que je dis, et je répète, c'est que l'animation des seniors, et des personnes du bel âge, ça a deux avantages. La première, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma petite allocution, c'est que avec l'animation des seniors, on fait de la lutte contre l'isolement. Parce que quand on leur propose de venir sur la foire de Marseille, de venir écouter, de venir jouer pour gagner un voyage à tel endroit, de venir danser, etc., quand on leur propose ça, ils ne restent pas chez eux. Même si quelquefois c'est difficile de s'habiller, de se changer, prendre le bus pour aller à un endroit où il fait chaud. Première vertu, on lutte contre l'isolement. Ils ne sont pas seuls.
Qui est malheureusement la parallèle de cette perte d'autonomie.
L'autre vertu, c'est que quand je les vois chanter, danser, rire, bouger, je me dis, là, pour le coup, aussi, on fait de la prévention de la perte d'autonomie.
Eh oui.
Et vraiment, quelquefois, j'ai tendance à regarder avec beaucoup d'affection, d'humour aussi. Je me dis que le SE13, quelquefois, fait des miracles. J'ai vu des personnes arriver avec des difficultés de mobilité et avec...
Et j'imagine aussi morale parfois parce qu'elles sont un petit peu seules, donc elles sont limite dans une petite dépression ou quoi que ce soit et d'un coup elles sont joyeuses.
Et puis il suffit qu'il y ait la bonne musique, une bonne musique bien entraînante, bien chaleureuse, bien méditerranéenne pour d'un seul coup... les voir bouger, danser sur... Alors là, je dis, on a fait du miracle.
Je vous promets que c'est vrai, si je peux me permettre de témoigner sur une histoire similaire que vous êtes en train de dire, nous nous rappelons qu'un jour, il y avait une organisation, on avait fait venir un chanteur qui avait un peu un répertoire oriental, Enrico Macias, etc. Et la dame était sur un fauteuil roulant. Et c'était sa fille qui avait emmené sa maman, donc, à cet événement que nous avions organisé. Et donc, il était dans un enchaînement, on aurait dit, c'était la fête qui était, pour dire, comme la vérité, si je m'en voyais un petit peu, Jean-Marc.
Et
d'un coup, cette personne-là qui était dans son fauteuil et qui ne se levait pas, d'un coup, on a eu même peur. Elle s'est levée, on aurait dit un miracle de Lourdes. Elle s'est levée et elle s'est dirigée vers le chanteur et elle a commencé doucement à danser comme ça. Sa fille, peu chère, elle ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Presque, elle voulait vite courir à sa maman pour dire « Rassis-toi ». Mais on lui a dit « Non, mais laissez-la ». Et elle a partagé ce moment de joie, de danse. Et le chanteur, alors, mais on en a fait des caisses parce que du coup, il voulait plus s'arrêter pour qu'elle continue. Et c'est vrai que c'est là le miracle, Jean-Marc.
J'ai la même anecdote sur Aix-en-Provence. Je vais dans un club de mon canton, il y a une dame qui arrive, avant de me dire bonjour, m'engueule un peu, m'ospille, mais on est là pour ça, les élus locaux, et me dit ta place de parking et de réservée aux handicapés est beaucoup trop loin. Alors moi, je réponds oui, bonjour, je vais essayer de voir ça avec la mairie, puisque c'était un aspect communal. Et puis il y a une musique entraînante, je sais pas si c'est pas Undo Stress ou je sais pas trop quoi. Puis d'un seul coup, j'ai vu cette dame, mais non pas sauter comme un cabri, mais quand même avec pas mal d'aisance et pas mal de volonté pour danser. Je me suis dit quand même, il y a des miracles qui se passent et c'est plutôt sympa.
Et heureusement qu'on a à travers l'ES et d'autres associations aussi qui se dévouent à la cause des personnes du bel âge, qui sont là justement pour pallier à tout ben, ces mauvaises conséquences qui arrivent quand on commence à vieillir. Justement, vous parliez des projets, vous parliez de comment lutter contre la perte de l'autonomie, mais en quoi la sensibilisation au grand public, Jean-Marc, est importante pour cette cause et comment on peut l'encourager, justement, cette sensibilisation ? Parce que c'est vraiment un point fort, quand même, un point d'honneur que vous mettez aujourd'hui à en parler.
Oui, oui. Alors, si vous voulez, je suis un peu moins inquiet sur tout ce qui touche à l'autonomie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord, il y a une volonté politique du gouvernement, des gouvernements successifs et puis répertoriés dans les départements, qui est celle du maintien le plus possible, autant que faire se peut, à domicile. Pour des personnes qui sont en situation de forte perte d'autonomie. Aujourd'hui en France, aujourd'hui dans le département des Bouches-du-Rhône, 80% des personnes dépendantes sont dans leur domicile.
Et ça, c'est
et
la
pas
plus
dans
belle
des
chose.
Maisons. Voilà. D'ailleurs, quelquefois, on peut se poser la question, et certains professionnels se la posent, est-ce qu'on ne tarde pas trop à mettre des personnes trop dépendantes, trop tardivement, dans des établissements qui, eux, comptent des professionnels pour accompagner des personnes dites grabataires. Alors, je comprends que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer, puisque, généralement, ça touche nos proches. Mais sur tout ce qui est dépendance et puis dépendance en établissement, ce que je voudrais dire, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, nous sommes bien dotés. Nous avons près de 25 000 lits disponibles, répartis sur 280 établissements. Donc c'est assez conséquent. Et puis je saute sur l'occasion pour dire qu'en tout cas, les établissements que je visite dans les Bouches-du-Rhône ne sont en rien, en tout cas, ce que j'ai vu, et je ne les ai pas tous vus encore, ne sont en rien comme ceux décrits dans le livre Les Fossoyeurs de l'affaire Orpea.
Oui, qu'on avait
qui a
bien
beaucoup
entendu
nuit,
parler.
Qui a beaucoup nuit d'ailleurs, parce que des personnes se sont inquiétées après les années Covid, où force était de constater qu'il y avait plus de personnes qui mouraient dans les établissements. Pourquoi ? Parce que cette
et ça
maladie.
Ça renforçait l'isolement aussi, oui. Parce que les familles ne pouvaient pas aller les voir librement comme elles
exactement,
le souhaitaient.
Exactement, exactement. Et puis ce virus touchait principalement les personnes âgées. Donc c'est normal que. Enfin, c'est pas normal, mais
oui,
c'était.
Oui, mais les préventions étaient au maximum.
Vous passez 2 ans de Covid, il vous arrive l'affaire Orpea qui a jeté l'opprobre sur l'ensemble de la profession, alors que vous avez des établissements avec du personnel dévoué, avec des dirigeants qui prennent des risques financiers pour mettre à disposition des établissements de très très bonne qualité, eh bien c'est cette réputation est vraiment dommageable, je voulais le souligner. Cependant, nous restons bien entendu très attentifs, puisque le département, en lien avec l'Agence régionale de santé, contrôle d'une manière régulière et d'une manière inopinée les établissements. Lorsqu'on a le moindre doute, lorsqu'on a la moindre alerte, nous faisons ce qu'on appelle des descentes.
Oui.
Si vous voulez, tout ce qui est autonomie, prévention de la perte d'autonomie, accompagnement de celles-ci quand elles arrivent, accompagnement de la dépendance, là, même si nous ne sommes pas à l'optimal, nous essayons de nous améliorer. Il est un secteur que je voudrais aborder, qui nous préoccupe beaucoup plus et sur lequel nous allons nous mobiliser, c'est le secteur de la lutte contre l'isolement. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a le conseil départemental qui a une forte politique publique tournée vers le bel âge. Il y a les communes qui s'occupent des personnes âgées. Il y a leur CCAS. Là-dessus, vous rajoutez des associations, vous avez des professionnels qui s'occupent de tout ça. Et malgré ce, le constat, il est simple. Il est que malgré tous les efforts faits par les uns et les autres, nous avons encore des personnes qui sortent en dehors de nos radars. Et c'est sur ce thème-là, sur ce sujet-là, que nous voulons nous améliorer, nous voulons alors aller
plus
loin.
Quels sont les projets, justement ?
Alors, justement, nous avons un projet qui va éclore là en fin d'année. C'est un projet que j'ai proposé à la présidente Martine Vassal et qui a sauté dessus vraiment parce qu'elle avait compris que nous avons besoin. Il y a un vrai projet, c'est le projet de faire une journée qui va s'appeler les Assises de la lutte contre l'isolement et qui aura pour but, dans un premier temps, de réunir le plus possible d'acteurs qui sont engagés justement contre cette lutte contre l'isolement. Alors il y aura des associations, pas toutes certes, la première grande réunion qui va durer toute la journée à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Cette première grande réunion ne sera pas dans un premier temps ouverte au grand public, mais aux acteurs. Aux acteurs, le principe, ce sera de réunir les professionnels, les associations, les CCAS, enfin, toute une série
d'acteurs,
et de faire un certain point. La première des choses, c'est de se dire, d'essayer d'échanger les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui se fait de bien? Qu'est-ce qui ne se fait pas de bien? L'autre objectif sera d'essayer de tisser un réseau. Parce qu'il n'y a rien de plus inefficace, que de travailler seul et isolé. Telle association peut effectivement apporter à tel CCAS ou à tel EHPAD, peut apporter la solution.
Oui, c'est presque de faire d'une branche un seul tronc, voilà, de fédérer.
Fédérer, et puis aussi de regarder si nous n'avons pas dans ce département des Bouches-du-Rhône, qui est très peuplé, plus de 2 millions d'habitants, qui est très grand et très divers. Rendez compte, nous avons la seconde ville de France. Nous avons 4 ou 5 villes de plus de 50 000 habitants, une de plus de 100 000 habitants. Nous avons des zones rurales qui sont élargies. Nous avons la plus vaste commune de France, Arles. La plus grande commune de France en superficie. Le lait, parce qu'il y a la plus grosse zone humide d'Europe, je crois, qu'est la Camargue. Donc vous voyez, cette diversité, cette disparité, on n'est pas certain que dans tel ou tel endroit de notre département, il n'y ait pas des zones blanches, c'est-à-dire des zones où on ne s'occupe pas assez parce qu'il n'y a pas assez de structures, pas assez de répondants, pas assez de moyens.
Oui, parce que c'est vrai que quand on se rapproche des grandes villes, l'accès est beaucoup plus simple peut-être, beaucoup moins quand on est dans des villages.
Exactement.
Même parfois. Et donc,
il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est l'isolement. Comment des personnes arrivent à être isolées? Parce qu'il y a plusieurs formes d'isolement. La solitude et l'isolement étant deux choses différentes. Et
justement, faites le point.
Il y a l'isolement social. La solitude, ça peut être quelquefois une volonté. La personne qui dit...
Je choisis
de regarder les feux de l'amour plutôt que d'aller danser avec les copains et les copines ou d'aller manger la paella dans le club.
Vous
voyez, ça, je préfère rester seul que d'aller... L'isolement,
c'est
on va essayer de le comprendre. Ça peut être un isolement familial, l'isolement du voisinage, un isolement social. Vous voyez, il y a plusieurs facteurs. On va essayer de comprendre ça. On va essayer de faire une cartographie de notre département, d'échanger des bonnes pratiques, de repérer les zones blanches et pour plus tard, eh bien, essayer de travailler encore plus ensemble. Et là, je pense que le département... devait, en tant que chef de file de l'action sociale et des solidarités, se devait d'être le leader de ces
assises-là.
Bon, on verra ce que ça donnera. En tout cas, on est parti sur...
Mais il faudrait vraiment que ce message soit diffusé dans tout le département pour que les personnes, justement, les plus isolées, les plus éloignées aussi, parce que l'isolement, ça peut être aussi par rapport au territoire, comme vous le disiez, Jean-Marc. L'accès aussi au transport, parce que parfois, quand on vieillit trop, on n'a plus cet accès, cette mobilité de prendre la voiture et d'aller dans les festivités. Donc vraiment, c'est vrai que c'est très, très large. Et quel conseil alors donneriez-vous à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient des enfants, de personnes seniors, des personnes âgées, ou même ces personnes âgées-là, pour qu'elles restent le plus longtemps? Vous n'êtes pas médecin, mais... quel conseil vous pourriez leur donner en disant lutter contre l'isolement, lutter contre la perte de l'autonomie? Quels seraient les bons conseils à donner? Vous ne pouvez pas dire sortez, faites, voilà, mais...
Non, mais déjà, vous savez, moi, je n'ai pas à donner des leçons.
Mais vous avez une forte expérience quand même, voyant tout cela.
Je pense qu'il faut, les uns et les autres, faire la promotion de la simple solidarité. Quand je dis la solidarité, c'est quelquefois revenir à des fondamentaux. Tiens, un voisin qu'on a pu entendu, c'est quelquefois aller simplement taper à sa porte. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que l'animation a quelque chose de très bénéfique. Moi, Je vais souvent dans les clubs. Je suis invité un peu dans les clubs. Alors c'est mauvais pour le régime, mais c'est bon pour palper l'atmosphère.
Il y a toujours les pour et les contre.
Et je me suis aperçu d'une chose. C'est que lorsqu'ils font leur repas, parce qu'ils aiment manger, c'est bien, tant mieux. Lorsqu'ils font leur repas, je me suis aperçu que ils étaient toujours à la même place. Les personnes du bel âge étaient toujours à la même place, s'installaient toujours. Il y a la table de l'équipe qui va habiter telle rue, celle qui va à tel lotissement, etc.
Le groupe d'amis d'eux.
Le groupe d'amis d'eux, exactement. Et là, vous voyez, eh bien, lorsque, au bout d'une ou deux fois,
il y a une personne qui se vide,
vous voyez, ben, je suis, dans ces moments-là, comme on est ouvert vers les autres et pas renfermé sur soi-même, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va aller dire au délégué, au président de l'association ou à la déléguée. Mais tu as eu des nouvelles d'un tel ou d'une telle, et ça commence par ça.
Et voilà. Je vous promets que même nous en radio, on le fait, Jean-Marc, et c'est un message très important parce que quand on fait nos réunions également, et même tout simplement les auditeurs qui nous écoutent et qui nous appellent et qui sont régulièrement en train de faire leur dédicace, et d'un coup on n'entend plus cette personne. Eh bien, on s'inquiète pour elle parce que aussi bien nous, ici dans l'équipe, que les personnes qui sont les auditeurs disent « Ah, mais on n'entend plus monsieur, on n'entend plus madame. Sûr. Elle va bien au moins, bon, on lui fait un petit coucou. » Et c'est vrai que c'est ce message-là qui est important.
C'est ce que
regarder à côté de soi.
Exactement, c'est ce que fait le S13 avec ses 200 ou 300 clubs.
Bien sûr.
C'est ce que font, ce qu'on fait dans les maisons du bel âge, dans les 42 maisons du bel âge où nous avons maintenant monté en puissance 30 000 adhérents et ce n'est pas fini. Eh bien, il y a toujours du personnel du département qui va s'inquiéter. Tiens, j'ai plus vu madame Untel ou j'ai plus vu monsieur Untel. On va passer un coup de fil. Et c'est de là que. Mais pour, dans certains cas de l'isolement, il va falloir qu'on travaille sur le aller vers,
oui,
pour aller chercher des gens chez eux.
C'est vrai.
Parce que certaines personnes, pour des raisons diverses et variées, n'osent pas venir,
oui,
ne veulent pas venir, pensent que ce n'est pas pour elles et restent complètement isolées. Et c'est vers ça que nous allons.
Oui, c'est presque une démarche de proximité qu'il va falloir faire,
oui,
presque en porte-à-porte, on a envie de dire.
Oui, oui.
Et
oui,
d'ailleurs, justement, pour terminer sur cette belle interview, Jean-Marc Perrin, délégué au département des personnes du bel âge, la vision idéale que vous auriez justement contre la lutte de tout ce qu'on vient d'évoquer, la perte de l'autonomie, qu'elle soit mentale, physique, on le disait, ou l'isolement, ça serait quoi votre monde idéal et qui serait peut-être celui de demain, espérons-le.
Ouais, la question est difficile, la question est surprenante. Mais je vais répondre avec...
Avec, je sais, la sincérité qui est la vôtre et votre cœur. Vous allez y répondre.
Oui. Je dirais qu'actuellement, le département des Bouches-du-Rhône, qui est un gros département avec une forte population et une forte densité de plus de 60 ans, est doté d'un très, très gros budget. Je peux vous le dire, c'est 343 millions d'euros pour accompagner la dépendance, pour accompagner la perte d'autonomie. C'est, de mémoire, le troisième plus gros budget de l'ensemble des délégations du département. Le premier étant l'insertion, avec le RSA. Le second étant le handicap. Le troisième étant le bel âge. Le monde idéal serait que ce budget passe de 343 millions d'euros à zéro. Ça voudrait dire
qu'on n'en a plus besoin.
On n'aurait plus besoin. Voilà.
Ouais, là, mais ça serait vraiment
mais
le
ce
monde
serait idéal. Mais là, je suis plutôt chez Alice au Pays des Merveilles
que
plutôt Jean-Marc Perrin dans le département des Bouches-du-Rhône.
Oui, sinon, vous n'aurez même plus d'utilité, Jean-Marc, ça c'est certain.
Je ferai la retraite.
Ça serait en tout cas le monde peut-être idéal de celui de dire faisons toute une cohésion autour de ces sujets qui sont très importants et qui nous concerneront tous.
Oui.
Parce que tout le monde passera par ce passage de vie, ne regardons pas que devant nous, prenons une largeur d'esprit, voilà, serrons-nous la main. Vous voyez, on l'a fait quand on était en communion au stade Vélodrome avec la visite du pape François, on s'est tous retournés à un moment donné pour se serrer la main, c'était la communion. Alors faisons un petit peu peut-être ce geste et luttons contre la perte de l'autonomie physique, mentale et aussi ce grand fléau qui est l'isolement. Voilà. Et merci à travers vous, merci à travers le département, merci à travers la présidente Martine Vassal, merci à travers notre partenaire ES13 qui est présent là. Et comme d'habitude, Jean-Marc, on reviendra régulièrement sur ces sujets qui sont importants et sur lesquels des personnes ont beaucoup de demandes. Et vous ferez toujours le bon interprète de tout cela. Merci à vous, Jean-Marc.
Et merci à vous, merci à Diva, parce que je sais que vous avez dans votre auditoire pas mal de personnes, une grande quantité de personnes du bel âge, d'un certain âgé, et je vous remercie de vraiment passer le relais et de vous préoccuper.
Beaucoup de personnes
de ces
sont bloquées
gens-là.
Chez elles, voilà. Vous savez, Jean-Marc.
Et, ouais. Et une simple écoute d'une émission radio peut... Vous voyez les.
On va leur passer d'ailleurs le bonjour à toutes ces personnes-là, voilà. Parce que vous savez, beaucoup de personnes à qui sont en train de nous écouter, elles sont parfois dans leur lit, alitées complètement, et elles ne peuvent pas bouger. Et à travers ce que la radio leur transmet, elle leur fait vivre des événements. Quand on fait, même on retransmet un orchestre qui est venu hier. Voilà, c'est tout ça. Bien, malheureusement, ils peuvent plus faire autrement parce que sortir est complètement impossible. Et bien de faire ces actions-là, c'est pour nous très important et on va dans le même sens. Et merci à vous, merci au département. Jean-Marc, on vous dit à très bientôt. Bonne foire de Marseille.
À très vite. Ça
et
va,
à très
moi
vite.
J'ai fini.
Allez, vous, c'est fini. Bon, mais, oui, mais si vous avez fait la fête, vous avez mangé,
ouais,
ça y est.
Je préfère les matchs de rugby à la foire.
Vous êtes servi en ce moment. Ouais. On a eu un beau match. Hein.
Ouais, super. Hein,
qu'est-ce que vous en dites d'ailleurs de ce match? Bon, on a perdu.
C'est super. C'est mitigé, voilà, parce qu'on a perdu quand même un de nos.
Notre pilier, oui.
Notre demi de mêlée.
Il revient apparemment, il dirait.
Oui, il reviendra pour la finale contre les Irlandais, j'espère.
J'espère. Bon, allez, on va en finale et allez, on encourage notre équipe des Bleus de rugby. Merci Jean-Marc.
Allez, au plaisir.
À très bientôt. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur Diva FM. Nous sommes en duplex toujours de la Foire Internationale de Marseille. Venez aujourd'hui, profitez encore de ces quelques heures. L'entrée est gratuite pour les plus de 60 ans et nous serons avec vous à vous accueillir aussi bien sur notre plateau de Diva FM que dans le pavillon italien avec nos 50 exposants. Et plein de spectacles avec le S13 également qui sont à votre disposition. Bon après-midi à vous et à tout à l'heure.
101.8 Diva FM, la radio italienne de tous les Marseillais.
Restez à l'écoute et vivez la foire de Marseille sur Diva FM.